9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end. La grande nouvelle de la semaine, c'est que l'Amérique veut taxer davantage les entreprises. Une décision telle que certains y voient la fin du néolibéralisme. Alors mon premier invité, c'est l'économiste Daniel Cohen. On va voir avec lui si l'on est vraiment à un tournant ou pas. Je recevrai ensuite Eugénie Bastier qui publie La guerre des idées, avec elle on va se demander ce qui a changé dans le débat intellectuel, quels sont les camps en présence et lequel est en train de gagner la bataille idéologique. Et l'on terminera l'émission avec Sébastien Lemerle. Vous avez déjà entendu parler du cerveau reptilien. On n'arrête pas d'y faire référence en politique, en marketing, au cinéma, dans les romans, dans les médias. Eh bien, le cerveau reptilien n'existe pas. Mais tout le monde y croit quand même. Bonjour Daniel Cohen. Vous êtes économiste, professeur à l'École normale supérieure, membre fondateur de l'École d'économie de Paris. Vous êtes l'auteur de quelques livres qui sont des références comme « Richesse du monde, pauvreté des nations ». Le dernier s'intitule « Il faut dire que les temps ont changé » chez Albin Michel. Et c'est vrai que les temps ont changé. Joe Biden veut augmenter l'impôt sur les sociétés aux États-Unis alors qu'il baissait depuis 40 ans partout dans le monde. Il est passé en moyenne de 28 à 21% dans l'OCDE au cours des 20 dernières années. Boris Johnson veut faire la même chose en Grande-Bretagne. Est-ce qu'on est à un tournant? Est-ce que le chapitre du néolibéralisme, ouvert il y a 40 ans par Margaret Thatcher et Ronald Reagan, est en train de se refermer?
Oui, il y a indiscutablement une rupture, et on le voit en effet avec cette proposition de Joe Biden, non seulement d'augmenter les impôts sur les sociétés aux États-Unis, de les remonter à 28%, mais aussi de proposer à l'ensemble de la communauté internationale un taux minimum de 21%. Donc il y a une rupture, il y a une rupture sur ce sujet, la fiscalité, et puis il y a une rupture par rapport à Trump. Aussi, puisque le multilatéralisme que Trump abhorrait redevient de saison, Biden s'adresse à ses partenaires de l'OCDE pour essayer de réfléchir collectivement à une solution ici au problème fiscal et on espère bientôt aussi au problème du réchauffement climatique. Donc il y a un changement de ton par rapport à la mondialisation dans son ensemble et par rapport à la manière dont les institutions multilatérales sont sollicitées par Biden.
Alors pour arrêter la course à la baisse de l'impôt sur les sociétés, Janet Yellen travaille en effet avec les pays du G20 pour convenir d'un taux d'imposition mondial minimum sur les sociétés. Ce serait prévu en juillet. Est-ce que c'est un début d'harmonisation fiscale?
Oui, c'est une harmonisation fiscale, puisque en proposant un taux minimum de 21%, bah, elle les relève beaucoup par rapport aux pays qui, au sein même de l'Europe, font évidemment beaucoup moins que ça. On pense à l'Irlande et au Luxembourg. Alors, il ne faut pas non plus se méprendre ou être trop naïf. La raison pour laquelle les Américains proposent ça, c'est parce que eux-mêmes, pour financer le plan XXL qu'ils sont en train de mettre en œuvre, ont besoin de recettes fiscales, qu'ils vont donc remonter leur impôt sur les sociétés et qu'ils redoutent quand même le dumping fiscal des autres pays. Donc c'est évidemment une coopération internationale intéressée, mais bon, qui est toujours très bonne à prendre, évidemment.
Mais ça aussi, c'est un tournant. Il y a la promesse qu'a faite Joe Biden de taxer les revenus de plus de 400 000 $ par an. Et puis, il y a l'ampleur, vous l'avez dit, de son plan de relance que l'on compare au New Deal de Roosevelt pendant la Grande Dépression.
Oui, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, hein, puisque on parle de 2,8 trillions de dollars, c'est-à-dire l'équivalent en gros du PIB français, qui va être réinjecté dans l'économie américaine cette année. C'est un plan de relance qui représente presque 15% du PIB américain cette année. Donc c'est des chiffres évidemment qui donnent le vertige. Mais par rapport à la rupture dont on parlait, il y a aussi une continuité vis-à-vis de Trump, hein. C'est-à-dire que, en fait, Trump a montré aux démocrates qu'en n'ayant pas peur des déficits, pas peur de la dette, et en ayant des déficits, alors même que quand Trump les a engagés, ils n'étaient pas vraiment nécessaires au regard du plein emploi ou du chômage, en ayant des méga déficits, on pouvait faire une différence. C'est-à-dire qu'on voyait que le chômage baissait beaucoup, hein, il était à 3,5% aux États-Unis, que les salaires recommençaient à croître. Donc oui, en tirant vraiment fortement sur la corde des déficits, on pouvait relancer l'activité économique. Et ça, c'est quelque chose auquel, au fond, les démocrates avaient renoncé. L'idée qu'on pouvait vraiment mener des politiques de relance suffisamment têtues pour relancer l'activité économique. Donc ça, c'est une des leçons qu'ils ont apprises de Trump. N'ayons pas peur des déficits et de la dette. Ce qui compte, c'est le plein emploi. Et donc, oui, de ce point de vue-là, il y a une forme de continuité avec Trump, même si les moyens d'y parvenir, on vient de le dire, sur la fiscalité, sont très, très différents de ce que Trump avait en tête.
Il limite aussi pour d'une autre manière. C'est que les États-Unis peuvent taxer forfaitairement les bénéfices réalisés par les entreprises à l'étranger. Sous Trump, c'était 10 à 10,5%. C'est lui qui a créé cette taxe. Joe Biden parle de 21%.
Oui, alors ces 20%, c'est un impôt minimum et les pays qui taxeraient en deçà de 21%, les États-Unis s'autoriseraient à payer la différence. Ça ne s'ajoutera pas aux taux de fiscalité qui sont prélevés dans les différents pays.
À percevoir la différence.
mais vous avez raison sur un point, c'est que en fait, oui, il y a rupture par rapport à Trump, on vient de le dire, notamment dans le domaine du multilatéralisme. Mais il y a une double continuité, celle des déficits, mais aussi par rapport à la question du commerce international. C'est-à-dire que Trump a créé quelque chose d'un peu original, en réalité, qui était à la fois très réganien, baisse d'impôts pour les riches, le ruissellement, etc., et en même temps très hostile à la mondialisation, contre les Chinois, contre les Mexicains. Au fond, il a rompu avec l'orthodoxie libérale des Républicains en matière de mondialisation. Et au fond, on peut dire que Trump, c'était le capitalisme dans un seul pays. C'est-à-dire, très bien, on libère tout, on dérégule tout ce qu'il faut à l'intérieur des États-Unis, mais on se méfie du reste du monde. D'où la guerre froide larvée engagée avec la Chine. Biden est à nouveau, d'une certaine manière aussi, dans ce domaine, l'héritier de Trump. C'est-à-dire qu'il est très dur, il continue d'être très dur avec la Chine, et il entend bien fixer un tempo dans les relations internationales qui ne sera plus celui de la mondialisation heureuse, comme on avait dit à un moment donné en France. Donc oui, il y a une rupture, on cherche le bien public avec le réchauffement climatique, on taxe les plus riches, ça c'est indiscutable, c'est un virage à gauche, mais il y a une continuité qui est que, oui, on va dicter au reste du monde ce qui est bon pour les États-Unis en matière de fiscalité et on ne se laisse pas avoir une deuxième fois avec l'idée que ouvrir les frontières, c'est nécessairement bon pour la croissance américaine.
Et on veut renflouer les caisses des États. Alors ça, c'est lié évidemment au Covid, mais quand même, ça aussi, c'est un tournant.
Oui, alors il y a deux choses qu'il faut distinguer. Il y a deux programmes chez Biden. Il y a le programme de cette année, qui lui n'est pas du tout financé. C'est un programme avec un déficit pur, je le disais, de l'ordre du PIB français pour relancer la machine. Et puis il y a un deuxième programme, d'un tout petit peu moins élevé en réalité que la somme des deux qui ont été votés à la fin de l'année dernière et cette année, qui est pour remettre en place les infrastructures. Donc ça, c'est sur plus long terme. Et c'est celui-là qu'il s'agit de financer avec, en effet, retrouver de la fiscalité. Donc, s'attaquer, au fond, à l'extraordinaire explosion d'inégalité qu'il y a aux États-Unis. Mais là encore, Biden n'est même pas Obama. Enfin, il n'est ni Roosevelt ni Obama. On parlait du retour de la fiscalité. Attention, l'impôt sur les sociétés va passer de 21 à 28, mais sous Obama, il était à 35. C'est-à-dire que on reste un tout petit peu au milieu. On n'est pas du tout pour la fiscalité sur les très hauts revenus. On n'est pas du tout, par exemple, sur les propositions de Sanders, qui, lui, voulait vraiment créer un gros impôt jusqu'à 10% sur la fortune des plus riches Américains. Donc, on reste dans une forme de centrisme qui, évidemment, au regard de ce que faisait Trump, est un tournant indiscutablement.
On fait une pause, Daniel Cohen, et on se retrouve juste après. On va faire un petit point justement sur cette économie mondiale post-Covid, ou presque post-Covid.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Daniel Cohen, le CAC 40 est au plus haut en ce moment, pareil aux États-Unis et dans d'autres pays. Les indices boursiers sont au plus haut. On dirait que les marchés ne connaissent pas la crise. C'est quand même bizarre parce que nos économies, y compris l'économie américaine, ne sont pas dans leur meilleure forme.
Non, indiscutablement, on a connu une crise l'année dernière qui était la plus extraordinaire depuis les années 30. On n'a jamais eu, même en 2008 et en 2009, une récession aussi sévère que celle qu'on a observée en France, à l'échelle du monde ou même aux États-Unis. Donc on a été dans une crise majeure et en effet, après avoir pris un sacré bouillon en mars-avril tout de même, les bourses ont rebondi jusqu'à retrouver et dépasser, et dans certains cas dépasser de plus de 40% pour les entreprises de haute technologie, les niveaux qu'on avait atteints juste avant la crise. Donc il y a quelque chose en effet de bizarre, de curieux, et qui traduit en réalité plusieurs choses. La première est la plus simple, c'est que les taux d'intérêt ont beaucoup baissé au cours de cette crise. On a beaucoup commenté le fait fait qu'ils étaient négatifs en France et en Allemagne, très très faibles aux États-Unis. Et quand les taux d'intérêt sont bas, c'est de la liquidité qui est injectée dans l'économie mondiale et c'est bon pour la bourse. Quand les taux sont faibles, bah ça fait monter tous les actifs. Par exemple, l'immobilier, vous avez un rendement de tant d'euros chaque mois parce que vous êtes le propriétaire d'un studio que vous pouvez louer. Bah quand les taux baissent, il a plus de valeur parce que relativement à ce que vous pourriez obtenir en investissant ailleurs, c'est mieux et donc ça dope les cours. Donc il y a eu ce phénomène un peu mécanique qui s'est observé.
Et c'est d'ailleurs, pardonnez-moi de vous interrompre, ouais, mais c'est la raison pour laquelle il y a de plus en plus de milliardaires, d'ailleurs. On le lit dans la presse régulièrement. Il y a de plus en plus de milliardaires, mais ils n'ont pas gagné plus d'argent. C'est juste que la valeur de leur patrimoine a augmenté.
La valorisation de leur patrimoine a augmenté, ça ne veut pas dire nécessairement, pour prendre mon histoire de loyer, que les loyers ont augmenté. Ça ne veut pas nécessairement dire que les dividendes qu'ils ont perçus aient augmenté. C'est juste que quand vous avez un actif qui rapporte 10, relativement à un actif qui rapporte 1, on va dire les emprunts d'État, bah, il vaut 10 fois plus. Voilà, c'est à peu près aussi simple que ça. Donc ça a dopé les actions, mais c'est un peu nominal, c'est de la fumée, ça veut pas dire grand chose d'autre que le fait que voilà les taux d'intérêt sont très bas et que ce truc restera aussi longtemps que les taux sont bas. Alors maintenant il y a d'autres phénomènes qui se jouent aussi. Le premier, et on parle à cet égard dans les milieux boursiers d'une reprise en K, c'est-à-dire ça tombe et puis il y a une branche qui remonte, une autre qui descend. Il y a eu des vrais vainqueurs de cette période, c'est-à-dire qu'on a vu les Amazon, les Netflix, les Zoom, etc. exploser en capitalisation, les Moderna, enfin tous ceux qui ont trouvé ces vaccins. Il y a des gagnants de la crise, c'est-à-dire ceux à qui la crise a convenu. Alors évidemment, les vaccins, c'est clair, mais le numérique a fait une percée incroyable pendant cette période. C'est-à-dire le fait que on n'avait plus le droit de se voir en face à face, en présentiel, a fait que toutes ces technologies numériques, en réalité, ont vu le moment où elles pouvaient parvenir à maturité. On s'est rendu compte, peut-être à ce moment-là, pendant cette crise, pendant ce confinement et ce qui a suivi, que le numérique servait en réalité à ça, servait à se dispenser de se rencontrer en face à face. Donc, c'est le moment du numérique et peut-être que dans 20 ou 30 ans, on se souviendra de ce moment comme celui qui a véritablement lancé la révolution numérique en découvrant qu'on peut faire du télétravail, de la télémédecine. Donc ça, c'est le deuxième facteur qui a tiré à la hausse les actions de toutes ces entreprises, les GAFA et autres, qui sont à la pointe de cette révolution numérique. Puis il y a un troisième facteur, alors ça, celui-là serait le mieux en quelque sorte par rapport aux deux autres, c'est que cette crise a été très sévère, mais d'une certaine manière, si on fait bien les choses, elle pourrait n'être que de courte durée, parce que l'économie n'a pas été endommagée. C'est pas comme après une guerre, c'est pas comme après une crise financière où le système bancaire est incapable de recommencer à distribuer des crédits. C'est-à-dire, tout a été gelé, on a été en hibernation, mais ça pourrait repartir. Alors pourquoi je dis ça? Parce que l'année dernière, au troisième trimestre, pendant l'été, c'est reparti très vite. Dès que le virus est tombé, c'est reparti très vite. Alors est-ce qu'un an après, on va garder cette capacité de rebond? Il y a beaucoup de cicatrices, de fatigue psychique aussi, des entreprises qui vont finir par faire faillite quand même, mais peut-être que la bourse parie sur un rebond rapide en vertu exactement de ce qu'on a observé l'année dernière.
Le FMI table sur une croissance mondiale de 6% en 2021, entraînée par la Chine et par les États-Unis. Mais le FMI redoute aussi une reprise très inégale, seulement 4,4% dans la zone euro, par exemple, ou 3,4% en Afrique subsaharienne. Il signale d'ailleurs que les revenus par habitant dans les pays en développement sont déjà réduits de 20% à cause du Covid et que ça va durer encore en 2021 et même en 2022. Et puis, toujours le FMI nous dit que même dans les pays riches, les inégalités se creusent. Les jeunes, les femmes, les employés moins qualifiés et ceux du secteur informel sont les plus touchés.
Oui, et en effet, ce rapport du FMI, enfin, il y en a eu plusieurs qui ont été écrits à l'occasion de ces assemblées de printemps qui sont en train de se tenir maintenant, est en effet très inquiet. Je parlais d'une reprise en K, en ayant en tête la bourse et les grands secteurs d'activité, mais en fait, cette reprise en K, elle veut aussi sans doute dire que au sein des pays, entre les pays, il y aura des gagnants, il y aura des perdants. Donc on cite, vous venez de le faire, la Chine et les États-Unis. La Chine parce qu'elle a géré très tôt cette crise sanitaire, les États-Unis parce qu'ils font une débauche de moyens absolument extraordinaire pour sortir de cette crise. Mais il va y avoir, au sein des pays et d'un pays à l'autre, beaucoup de perdants. Parce que sous la reprise qui pourrait être rapide, il y a beaucoup de corps blessés, d'âmes fatiguées. On a parlé de la fatigue psychique des jeunes. On sait que la pauvreté a été plus durement frappée par le Covid que dans les hauts revenus. Pourquoi ? Parce que c'était plus dur pour les enfants des milieux défavorisés de s'accrocher quand les écoles fermaient. C'était plus dur pour ceux qui étaient dans la précarité du marché du travail, avec des contrats courts, des intérims, des emplois saisonniers, de garder un emploi malgré le chômage partiel qui s'adressait surtout à ceux qui avaient un CDI. Donc malgré tout ce que le gouvernement français a fait par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de pauvreté qui est passée dans les mailles du filet. Le RSA a augmenté de presque 10% au cours de l'année dernière. On sait que les taux de mortalité à la Seine-Saint-Denis sont du double de ceux qu'on observe en France. Pour donner des exemples comme ça, c'est d'ailleurs un exemple qui est explicitement dans le rapport du Fonds monétaire international auquel vous faites allusion. Donc, il y a des scars, dit le FMI, il y a des cicatrices profondes qui fait que sous la surface d'une reprise qui pourrait être rapide, il y a beaucoup de laissés pour compte qu'il faudra aller chercher, et le FMI donne toutes sortes d'indications de ce qu'il faudrait faire. Donc oui, la reprise en cas, c'est pas juste les secteurs, c'est pas juste les GAFA versus l'aéronautique, c'est au sein de la société qu'il faut bien s'assurer qu'il n'y ait pas trop de laissés pour compte et qu'on aille bien tous les chercher pour les remettre dans le train de la croissance, et elle devait en effet se confirmer dans les deux années qui viennent.
Merci Daniel Cohen, je rappelle le titre de votre dernier livre, Il faut dire que les temps ont changé, c'est paru chez Albin Michel il y a 2 ans maintenant, mais là les temps ont vraiment changé. On se retrouve dans un instant avec Eugénie Bastier qui va nous parler de la guerre des idées.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
Bonjour Eugénie Bastier.
Bonjour Frédéric Taddeï.
Vous publiez La guerre des idées, enquête au cœur de l'intelligentsia française chez Robert Laffont. En quoi le débat intellectuel, puisque c'est de cela qu'il s'agit, est différent aujourd'hui de ce qu'il était hier ?
Alors déjà, je crois que ce qui caractérise le débat aujourd'hui, c'est qu'il y a en fait davantage de pluralisme, parce qu'il y a plus d'options idéologiques sur la table très différentes, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Quand on compare par exemple au débat des années 80-90, où il y avait un peu une illusion du débat, alors que c'était ce qu'avait appelé Jean-François Kahn la pensée unique, finalement des gens qui pensaient à peu près la même chose. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des gens radicalement différents dans l'espace public. Mais ce qui caractérise aussi ce débat, c'est que finalement ces options idéologiques très différentes ne dialoguent pas ensemble et que souvent elles s'excommunient mutuellement et qu'il n'y a pas vraiment finalement de débat. Donc il y a davantage de nuances, davantage de positions différentes dans le débat public, mais moins de nuances, dans le sens où il y a moins de dialogue, de modération, etc. Et c'est ça, c'est ce paradoxe, à mon avis, qui caractérise le débat actuel.
Vous dites qu'on n'est plus dans le débat, mais dans le combat, au fond comme au temps de la guerre froide.
Oui, il y a un retour du sectarisme, et donc c'est vrai que du débat au combat, c'est un peu le filigrane de mon livre. Le débat, vous savez, c'était la fameuse revue qui avait été fondée par Pierre Nora et Marcel Gaucher en 1980, année de la mort de Sartre, et qui signait finalement la fin des idéologies. Ils affirmaient que finalement on allait pouvoir débattre sereinement d'un tout un tas de sujets entre experts, qu'on allait quitter la posture de l'intellectuel engagé. Et finalement, c'est un peu l'inverse qui s'est produit, c'est-à-dire qu'on a eu le retour de l'engagement intellectuel, pour le pire, dans le sens où, effectivement, il y a le retour de ce sectarisme, de cet anathème, de cette violence dans le débat public. Et aussi, moi, c'est un peu la tonalité positive de mon livre, pour le meilleur, dans le sens où, effectivement, les idées gouvernent à nouveau le monde, en tout cas, ont un impact. Et finalement, on a cette confrontation d'idées qui est, moi, je trouve stimulante.
Alors, dans cette guerre des idées que vous analysez, Eugénie Bastier, il faut rappeler que vous êtes partie prenante. Hein. Vous êtes journaliste aux pages débat et opinion du Figaro. Vous faites partie des fondateurs de la revue Limite. Vous publiez des essais comme Adieu Mademoiselle ou Le Port Émissaire. Vous êtes présente sur Twitter. Et je me souviens encore de la première fois où je vous ai invité à la télévision. C'était dans Ce soir ou jamais. Je crois que c'était votre première émission. À l'époque, vous aviez 23 ans. Et qu'est-ce que j'ai pas entendu ? C'est comme si j'avais invité le diable. Là aussi, ça a bien changé. Aujourd'hui, vous êtes la bienvenue.
Je me souviens que c'était une confrontation face à Jacques Attali sur le sujet de l'immigration. Et effectivement, c'était un échange assez vif, même si c'était un échange... voilà, pour le coup, c'était un vrai débat d'idées. On avait des visions du monde opposées et qui se confrontaient. Et peut-être qu'en effet... À l'époque, ce que je représente, c'est peut-être une vision un peu conservatrice du monde, était en effet extrêmement minoritaire dans le débat et qu'il n'y avait pas beaucoup de ses représentants dans le débat public, et notamment de jeunes qui s'exprimaient sur ce sujet. Donc effectivement, le caractère de nouveauté a pu apparaître un peu effrayant à certains. Mais je crois, depuis, effectivement, comme vous dites, je suis peut-être moins, diabolisée aujourd'hui, mais c'est peut-être aussi que les gens ont appris à me connaître et ont compris que...
que vous n'étiez pas le diable.
Je n'étais pas le diable.
Mais il y a aussi que dans la partie de carte idéologique, ce sont les gens de votre bord aujourd'hui qui ont les atouts, il me semble. Celles et ceux qu'on qualifiait hier de réactionnaires auraient, c'est ce qu'un certain nombre de gens pensent, auraient gagné aujourd'hui la bataille idéologique au point de détrôner dans les médias tous ceux qui y régnaient jusque-là. Au fond, c'est vous aujourd'hui qu'on entend à la télévision, à la radio, dans la plupart des débats. Vous, pas vous personnellement, mais c'est votre bord.
Bah, je crois que... Enfin, c'est vrai que depuis 2002 et la publication du pamphlet de Daniel Hindenburg, les nouveaux réactionnaires, le rappel à l'ordre, la gauche dit et redit que la droite est en train de gagner la bataille des idées, qu'elle est de plus en plus présente. Je crois qu'elle confond l'effritement de son magistère avec un retournement d'hégémonie, parce que effectivement, oui, la droite et le conservatisme peut-être est de retour sur certains sujets. Effectivement, l'idée de frontières est de retour, l'idée de nation est de retour, l'idée qu'il y a un certain nombre de limites à la condition humaine est de retour, mais je n'ai pas l'impression non plus que la droite ait complètement gagné la bataille des idées. Si on regarde dans les médias, effectivement, il y a des chaînes d'infos continues où on a des éditorialistes de droite, mais le service public, je pense, reste majoritairement de gauche. L'université reste hégémoniquement à gauche. Le pouvoir éditorial, les écrivains, l'intelligentsia culturelle reste aussi à gauche. Alors, effectivement, il y a un rééquilibrage, mais je pense qu'aujourd'hui, justement, on a un équilibre des forces en présence, un combat idéologique peut-être à armes égales, plus qu'avant, où la gauche avait un monopole absolu sur la vie des idées. Et c'est tant mieux, mais je crois pas que... Finalement, il y a un paradoxe que je décris dans mon livre, dans la vie des idées aujourd'hui, c'est que chacun veut se dire minoritaire dans le débat.
C'est-à-dire oui, que... tout le monde reproche à l'autre de représenter l'hégémonie culturelle.
Voilà, la droite dit que la gauche est partout, la gauche dit que la droite a gagné la bataille des idées, les libéraux disent que la France est un pays socialiste, les gens d'extrême gauche disent que le néolibéralisme est triomphant, et chacun finalement se dit et se veut minoritaire dans le débat. Et à mon avis, c'est
rebelle, donc rebelle.
Ah, oui, c'est ça. Déjà, c'est ce qu'il y a toujours cette volonté quand on est un intellectuel d'être dans l'opposition au pouvoir, de jamais être du côté du pouvoir. Et il y a aussi, je pense, cette espèce d'ambiance contemporaine qui est la prime à la minorité, la prime au côté victimaire. Il ne faut jamais être du côté des puissants.
On fait une pause, Jenny Bastier. On se retrouve juste après, on continue d'en parler.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Eugénie Bastier qui publie « La guerre des idées » chez Robert Laffont. Vous dites que le premier homme politique de droite qui a compris qu'avant de prendre le pouvoir politique, il faut prendre le pouvoir idéologique, c'est Nicolas Sarkozy. Au fond, ce serait lui qui aurait mis à la mode l'identité nationale, par exemple. Hein. Jusque-là, la droite se confinait à la sphère économique.
Oui, c'est vrai et il l'a dit sous l'influence de Patrick Buisson, son conseiller Nicolas Sarkozy a employé ce terme d'hégémonie culturelle emprunté à Gramsci, qui avait d'abord été
un penseur de gauche, hein,
qui est un penseur de gauche évidemment, et qui avait dont d'ailleurs toute cette pensée de l'hégémonie culturelle par la droite, le gramscisme de droite avait été théorisé par Alain de Benoist, penseur de la nouvelle droite, et c'était confiné à ces cercles un peu minoritaires et marginaux. Et c'est vrai que Nicolas Sarkozy était le premier à théoriser cette idée, enfin théoriser, je ne pense pas qu'il l'ait théorisé lui-même, mais en tout cas il l'a dit qu'il fallait pour gagner les urnes, gagner la bataille des idées, et donc il a été très offensif sur des sujets comme le procès de mai 68, le procès de l'individualisme, le retour de la nation, la question de l'identité nationale. Et effectivement, il a contribué à installer dans le débat ces thèmes. Mais en fait, ce qui est toujours compliqué dans la bataille des idées, c'est qu'il y a une partie, en fait, il y a une partie de combat culturel où il y a des thèmes qui s'installent par le pouvoir des intellectuels, le pouvoir de ceux qui les installent dans le débat public. Et puis, il y a aussi le réel d'un côté, les événements qui font aussi basculer la bataille des idées d'un bord à l'autre, c'est-à-dire...
Le
11 septembre, les attentats islamistes, la vague migratoire, les phénomènes d'insécurité ont fait que de plus en plus, effectivement, le retour de la nation s'est installé dans le débat public, les questions de la frontière, de l'identité se sont installées, ils ne sont pas tombés du ciel. Et souvent, d'ailleurs, on a un discours de la gauche qui consiste à dire que ces thèmes-là sont de la pure fabrication de discours, ce sont juste des discours qui sont produits et qui finalement ils ne renvoient à aucune réalité, ils sont juste gonflés à l'hélium par la droite. Et je pense que c'est ça qui est compliqué dans la guerre des idées, c'est qu'à la fois, il y a le réel et de l'autre côté, il y a les penseurs. Et toute une partie, d'ailleurs, de ceux qu'on a appelés les néo-réactionnaires, c'est une partie de la gauche qui, finalement, a changé d'avis ou, en tout cas, a fait son aggiornamento face au réel. Une partie de la gauche intellectuelle, par exemple, des gens comme Alain Finkielkraut, Jacques Julliard, etc., qui Elisabeth Badinter, qui, à partir 1989 et l'affaire du voile de Creil, par exemple, ont commencé à s'intéresser à la question de l'islamisme, etc. Puis, ou sur la question de l'école aussi, de l'effondrement de l'école, ont changé d'avis, ils se sont mis à critiquer l'effondrement du niveau scolaire. Et finalement, aujourd'hui, ils sont qualifiés de néo-réactionnaires, alors qu'ils ont effectivement changé, évolué, un peu de la même manière, d'ailleurs, que toute une partie de l'intelligentsia de gauche a évolué face au réel pendant la seconde moitié du XXe siècle, notamment face à la révélation des horreurs du communisme. Ils se sont détachés progressivement. Ils ont rendu leur carte au parti tout le long du XXe siècle. Mais, il y a un peu ce même phénomène aujourd'hui.
Mais Eugénie Bastier, il y a aussi une gauche radicale aujourd'hui à qui l'on prête une influence considérable dans le domaine des idées. Ce sont les fameux islamo-gauchistes, les décolonialistes, les partisans de la théorie du genre, les adeptes de la déconstruction, les écologistes radicaux, les populistes de gauche et tous ceux qui veulent renverser le système, tous les révolutionnaires au fond. Est-ce qu'ils sont si importants que cela ?
Je crois que l'une des...
En nombre, j'entends.
L'une des caractéristiques du débat actuel, c'est effectivement que si on regarde les grands gagnants et les grands perdants de la vie intellectuelle, effectivement la droite est plutôt gagnante et la gauche radicale est aussi plutôt gagnante. Et les grands orphelins, j'ai envie de dire, c'est plutôt les libéraux et le centre-gauche qui...
Les modérés.
Les modérés et tous ceux qui ont triomphé finalement dans les années 80-90, qui ont en fait eu le pouvoir et qui l'ont exercé et qui ont déçu. En grande partie.
À l'époque du consensus.
À l'époque du grand consensus libéral. Et aujourd'hui, c'est vrai que vous trouverez peu de jeunes, par exemple, qui ont leur carte au Parti Socialiste ou qui se revendiquent disciples de Rosan Vallon dans le débat public. Ce sont des gens qui n'ont pas eu de disciples. Par contre, vous allez avoir beaucoup de disciples de la gauche hypercritique, bourdieusien, foucauldien, ou alors de la gauche post-marxiste. Par exemple, tous ceux qui sont autour de Chantal Mouffe, du populisme de gauche. C'est-à-dire, à la fois, donc... Il y a une résurgence de la gauche radicale sous la forme d'un anticapitalisme renouvelé, sous la forme d'un populisme de gauche, des gens comme Frédéric Lordon, etc. Et aussi cette gauche qu'on appelle gauche identitaire, c'est vrai que c'est difficile à définir. Moi, j'aime pas trop le mot identité parce qu'il est polysémique et qu'on s'en sert un peu à toutes les sauces, mais une gauche, disons, qui met en avant la question de la race et du genre à la place de la question de la classe sociale, et finalement ce déplacement historique qui est, à mon avis, très très important, et qui passe de la centralité des classes populaires à celle des minorités ethniques et raciales.
Et qui est violemment combattue aujourd'hui.
Et qui est très combattue, oui, surtout en France. C'est vrai que la France est le théâtre d'une résistance particulière à ce qu'on appelle les théories décoloniales, les théories de la race et du genre, plus d'ailleurs de la race que du genre. Et on voit que la France est le théâtre d'une résistance de la part de par son héritage universaliste, républicain, mais aussi, je pense, de la question des principes qui est très fort dans notre pays. C'est-à-dire qu'on est un pays qui adore la guerre des idées, qui se bat énormément pour des principes. On peut s'écharper sur le mot de laïcité, sur la question de l'universalisme. Je pense qu'il n'y a que dans notre pays qu'on fait ça, peut-être parce qu'on a cette espèce de capacité d'abstraction qui fait qu'on n'aurait jamais au niveau de l'émotion et qu'on essaie toujours de raisonner par principe. Mais c'est pour ça d'ailleurs que la question de la non-mixité, tout ça, fait énormément débat dans notre pays.
Mais entre les nouveaux conservateurs et la gauche radicale que vous venez de décrire, il n'y a plus de place du tout pour les libéraux libertaires, les multiculturalistes, les progressistes. C'était eux qui étaient modernes il y a encore peu de temps. Ils n'existent plus.
Je trouve en tout cas que leur discours a peu d'écho dans le débat public. Ils ne rencontrent pas de... Ils ont peu de succès parce que effectivement c'est un discours qui est daté, qui a été au pouvoir, hein, le discours à la fois de la mondialisation heureuse et du multiculturalisme joyeux a été dominant pendant des années et finalement il a montré ses limites et ses échecs. Et même d'ailleurs la gauche racialiste qui aujourd'hui crée un nouvel antiracisme, et cet antiracisme est complètement différent du multiculturalisme à la sauce SOS racisme ou Benetton, c'est-à-dire le métissage joyeux. On voit qu'aujourd'hui c'est plutôt la ségrégation qui est mise en avant, etc. Donc effectivement ces idées-là sont passées de mode parce que le réel leur a donné tort. Et notamment, la question du libéralisme, c'est très intéressant parce qu'Emmanuel Macron a gagné la campagne de 2017 sur un discours libéral d'émancipation. Et ce discours s'est fracassé face au réel, face effectivement à la crise des Gilets jaunes, face à l'épidémie de coronavirus qui effectivement a complètement dévalué tous les discours libéraux sur l'austérité budgétaire ou sur le désengagement de l'État d'économie, etc., ou sur la mondialisation heureuse, puisqu'on a vu la défaillance des chaînes de production, etc. Et donc, le discours libéral, il est très à la peine aujourd'hui en Occident.
Merci, Eugénie Bastier. La guerre des idées, enquête au cœur de l'intelligentsia française, ça vient de paraître chez Robert Laffont. On se retrouve juste après une pause avec Sébastien Lemerle. Vous employez l'expression « le cerveau reptilien », vous ? Oh non, on l'entend souvent, cette expression. Vous l'employez pas, mais il ne faut pas l'employer. Vous allez voir pourquoi.
D'accord.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï.
On connaît tous le cerveau reptilien, on nous en parle assez souvent, ce serait notre cerveau ancestral focalisé sur les activités de base, sauf que ce fameux cerveau reptilien n'existe pas, et oui, pourtant tout le monde y croit. Bonjour Sébastien Lemerle.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et vous sortez un livre très intéressant aux éditions du CNRS, il s'intitule « Le cerveau reptilien » et c'est sous-titré sur la popularité d'une erreur scientifique. En effet, c'est une erreur scientifique au départ, hein.
C'est une erreur scientifique. Ça n'a pas été tout de suite reconnu comme tel, mais disons qu'au bout de quelques années, les gens, disons, sérieux qui travaillent en neurosciences l'ont laissé complètement tomber, oui, effectivement.
On la doit à Paul MacLean, un neuroscientifique américain dans les années 50. Mais alors, cette erreur scientifique va être vulgarisée par des auteurs parfaitement respectables et souvent très connus, mais qui ne sont pas des scientifiques. Hein. Et c'est, au fond, tout le sel de votre livre, c'est ça, c'est que vous la suivez, cette erreur, comment elle se propage un peu partout. Alors par exemple, il y a Arthur Koestler, un grand écrivain que personnellement j'adore, et lui c'est dans Le cheval dans la locomotive qui va populariser cette idée, ou le cinéaste Alain Resnais dans son film très célèbre Mon oncle d'Amérique.
Oui, absolument. En fait, la théorie de MacLean a bénéficié de l'aura de Koestler. Et d'ailleurs, en fait, Koestler l'a popularisé très très vite après la formulation, parce que le livre dont vous parlez était publié en 67, alors que MacLean commence à parler de ça au début des années 60. Et donc, en fait, au moment où Koestler écrit, il y a encore peut-être un doute, vous voyez. Mais du fait de l'aura et du prestige de Koestler, ça a très vite bénéficié à la théorie de MacLean. Et Koestler était vraiment, vraiment, si vous me passez l'expression, fan de la théorie de MacLean, parce que ça lui permettait de justifier scientifiquement sa propre théorie à lui du mal-être humain, de ce qu'il appelait le côté un peu schizo de notre espèce.
Oui, et Alain Resnais, on se souvient de ce film Mon oncle d'Amérique, qui a aussi un très gros succès.
Très gros succès, Grand Prix du jury au Festival de Cannes en 80. En fait, ça, le chaînon manquant, là, c'est Henri Laborie. Henri Laborie, qui est un des grands vulgarisateurs de la théorie de MacLean-Koestler, surtout de MacLean en France.
Et qu'on voit dans le film.
Et qu'on voit dans le film, d'ailleurs. En fait, donc, ils travaillent ensemble pour faire le film. Et le film, donc, du fait de sa réception, participe à la popularisation de l'expression, pas du concept.
Voilà, c'est ce que vous expliquez bien. C'est qu'en pénétrant l'espace public, la notion de cerveau reptilien change de sens. Au départ, c'était une vision pessimiste de la nature humaine, que notre éducation était censée museler. Là, ça va devenir quoi ?
Alors, je reviens juste un petit peu. MacLean et Koestler, c'est vraiment l'adaptation de Freud, de Malaise dans la culture, avec des neurosciences. Et donc, c'est une vision pessimiste, effectivement, de l'humanité. Et ça a beaucoup plu, d'ailleurs, à des intellectuels de nouvelle droite dans les années 70. Du coup, il fallait museler, mettre un tour de vis pour contrecarrer cette nature humaine mauvaise, quoi. Mais ça a été aussi reçu à gauche, notamment donc Laborie, mais aussi Edgar Morin, à un moment donné. Et là, du coup, c'est plutôt l'idée de se dire, voilà, il y a des choses en nous qu'on peut découvrir, qu'on peut analyser et qui peuvent effectivement être un problème pour la paix dans le monde, pour la sérénité d'un pays ou d'un individu. Et donc, mais du moment qu'on le connaît, on peut agir dessus. Donc là, il y a un côté plutôt optimiste, c'est-à-dire qu'on arrive à, connaître notre nature et puis peut-être comme une espèce de paramètre ou de données sur laquelle on peut jouer ensuite. Vous voyez, donc là, il y a le côté, tragique de Koestler qui disparaît au bénéfice d'une approche un peu plus gestionnaire, si j'ose dire.
Et ça va être repris énormément dans la presse, surtout à partir des années 2000, hein, d'après ce que vous dites. Et sont souvent des experts, des spécialistes qui, lorsqu'ils sont interviewés, parlent de cerveau reptilien. Ça fait tout de suite sérieux, ça fait documenté.
Ah oui, ça fait tout de suite sérieux. Oui, ça fait un argument d'autorité. Surtout auprès de gens qui, par exemple, ne sont pas spécialistes, hein, tout de suite, ça en jette, si vous me passez l'expression encore. Il y a deux types d'appropriation. Une appropriation plutôt, disons, on y croit encore. Donc là, c'est par exemple le neuromarketing, ce genre d'approche-là. Là, on y croit vraiment. Et puis, il y a une autre appropriation qui est plus une appropriation métaphorique. Où en fait, et là, du coup, on largue les amarres, on ne parle plus du tout de MacLean, on ne parle même plus du tout de Laborie. Et ça désigne notre part archaïque, en fait. l'archaïsme qui aurait au fond de nous. Quoi.
Oui, c'est le cerveau ancestral au fond. Ouais. Les politiques parlent beaucoup du cerveau reptilien des électeurs, par exemple, hein, en jouant sur leur peur, notamment.
Voilà, ça devient synonyme de ça, en fait. Ça devient un synonyme de l'instinct de conservation, ça devient un synonyme de l'égoïsme. Il y a même, je cite plein d'articles dans le journal, mais... Ou, par exemple, si vous commencez à vouloir faire l'égalité homme-femme en termes de salaire, ça va révéler le cerveau reptilien des uns. Enfin, voilà. Donc, ça devient une expression un peu passe-partout et qui s'adapte aux intérêts de la personne qui l'utilise, en fait.
Oui, les politologues, les écrivains, les musiciens, vous en citez plein, c'est très, très drôle. Les critiques utilisent le cerveau reptilien, souvent dans le sens de penser avec ses tripes.
C'est exactement ça. Donc là, vous voyez, on est loin de l'aspect tragique. On est plutôt à l'écoute de son corps. Et donc, on va, par exemple, adorer Iggy Pop, parce que Iggy Pop nous parle aux tripes et il sait toucher notre cerveau reptilien.
En plus, Iggy Pop était surnommé le lézard.
Oui,
donc,
voilà,
il est vraiment reptilien,
oui,
lui.
Alors là, pour le coup, oui.
Alors, pour les gens du marketing, vous l'avez dit, les économistes, on parle du cerveau reptilien des consommateurs, évidemment.
Oui, c'est ça. Donc il y aurait une zone dans le cerveau qu'il faudrait cibler particulièrement à l'aide de différents artefacts, que ce soit des odeurs, des images à tonalité sexuelle souvent, et qui ensuite conditionnerait l'acte d'achat. Oui, voilà. Mais ça, c'est une scientificité un peu douteuse, en tout cas qui a été réfutée, mais sur laquelle beaucoup d'agences jouent apparemment.
Et on va bientôt apprendre à domestiquer son cerveau reptilien, qui, je le rappelle, n'existe pas et n'a jamais existé. Et cela grâce au développement personnel. Là, c'est le tour des psys, des médecins, des coachs, des formateurs en tout genre qui vont consacrer des livres et des stages au cerveau reptilien.
Oui, alors là, on est sur l'aboutissement du côté gestionnaire dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut être à l'écoute de son corps. Et alors, ce n'est pas évidemment tout le développement personnel, hein, on ne va pas jeter l'opprobre sur toute la corporation, mais il y a une partie de ce secteur-là qui va donc dire, voilà, je vais vous apprendre à apprivoiser votre crocodile. Hein, parce que le cerveau reptilien est souvent représenté sous cette allégorie du crocodile. Et donc, il y a des formations pour être à l'écoute de ce corps-là, pour essayer de... Alors, en même temps, je veux dire, ça peut apporter une aide aux gens qui ont...
Oui, si on est agressif au volant, par exemple.
Voilà,
ça
ou si on a traversé une épreuve un peu difficile, etc., y a des gens pour qui, disons, ça apporte des réponses. Voilà. Hein. Après, est-ce que c'est un type de réponse très fiable ? Je vous en laisse juger.
Mais Sébastien, pourquoi un tel succès ? Pourquoi est-ce qu'on est si attaché, au fond, au cerveau reptilien ? Parce que s'ils sont si nombreux à l'avoir utilisé, ça nous est utile, au fond.
Oui, ça remplit une fonction, absolument. D'ailleurs, à la fin du livre, dans la conclusion, j'ai fait une petite analyse de presse lors du premier confinement. Ça ressortait, hein, qu'il fallait être à l'écoute de son cerveau reptilien si on voulait être à l'aise lors du confinement. En fait, je dirais que ça renvoie à plusieurs choses. Ça renvoie à des schémas culturels très anciens. Le péché originel, ça renvoie à la psychanalyse, parce qu'en fait, le cerveau reptilien, c'est le ça de Freud, hein, si vous voulez, pour aller vite. Ça renvoie donc à tout, enfin, des schèmes culturels très anciens, donc du coup, ça nous parle. Miraculeusement, ça nous parle. Ah ben bien sûr, voilà, donc ça explique rien, mais disons que c'est en accord avec des idées qu'on avait déjà. Et pour certaines personnes, ça rassure d'une certaine façon, ça donne des explications. Ça répond aussi à une autre tendance qui est très forte quand on étudie l'histoire des idées comme moi. C'est la passion pour l'explication unique, hein, le facteur qui expliquerait tout. Donc bon, il y en a qui le mettent ailleurs, mais il y en a qui le mettent dans le cerveau, et en particulier dans ce cerveau reptilien.
Merci Sébastien Lemerle. Alors, pour tous ceux que le cerveau reptilien continue d'intéresser, surtout sur cet aspect popularité d'une erreur scientifique, votre livre vient de paraître aux éditions du CNRS. Europe 1. C'est arrivé cette semaine, touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous demain matin à 9h dans C'est arrivé demain. Sébastien Guyot et les grandes voix, c'est juste après le flash. Quel est le programme, Sébastien ?
La suppression de l'ENA, vraie réforme ou coup politique d'Emmanuel Macron, le Sofagate et ses répercussions géopolitiques. Et puis, que dit l'emballement médiatique autour de l'affaire Chalençon et des dîners clandestins de notre société ? Voilà les trois thèmes, Frédéric.
Bonne émission,
merci.
Sébastien.
Merci.